Comment vous voyez le futur proche, là?
Eh ben, j'essaie de le voir pas trop noir. Mais moi, je n'espère qu'une chose, là, c'est de trouver un logement et m'installer et puis me poser un peu, parce que ça fait trop de choses d'un seul coup, là, et...
Ouais, parce que bon, on vit quand même chez des copains, mais bon, on n'est pas chez soi, quoi. Hein. On sent un peu quand même que, bon, bah, qu'on peut gêner les gens, quoi. Hein.
Par exemple?
Bah, leur vie intime, tout ça, les trucs comme ça, quoi. Bon, alors bon, bah, pour justifier notre présence, on fait quand même le maximum. Donc,
On
pense toujours qu'on n'en fait pas assez pour satisfaire la personne qui nous héberge, quoi.
Qu'est-ce que vous faites, par exemple?
Bon, on participe aux tâches ménagères, on fait la cuisine, on va faire les courses, on participe vraiment, on n'est pas, on n'est pas posé là, on n'est pas posé là, on s'intègre à leur vie familiale, si vous voulez, en participant à beaucoup de choses, quoi. Ce qui me paraît tout à fait normal.
Messieurs, je me permets de vous écrire suite à votre courrier du 17 décembre 2004 que j'ai reçu fin janvier 2005, notant une décision d'exclusion temporaire de 3 mois de l'allocation de retour à l'emploi. J'ai dû envoyer plus de 20 CV et lettres de motivation. Je demande un recours gracieux préalable afin de pouvoir continuer mes recherches d'emploi sans difficulté financière. Car avec 150 euros d'allocation jeune enfant qu'on a touché ce mois-ci, et vous enlevez 50 euros EDF, 46 euros loyer, 20 euros eau, reste 30 euros pour le mois. Avec une petite de 16 mois, on ne peut pas faire d'excès au niveau essence, timbre, etc. Dans l'attente d'un rendez-vous pour vous prouver ma bonne volonté, je vous envoie mes sincères salutations.
Bien. Donc, le dossier, premier dossier, c'est monsieur Avenir Jean-Pierre.
Numéro 5.
Voilà, c'est inscrit aux ACDIC le 2 décembre 2004. Il y a eu un avertissement pour absence à entretien le 6 janvier. Et donc, le 31 janvier, une décision de radiation, puisqu'il n'a pas réagi à cet avertissement. Donc, pour mémoire, hein, on rappelle que tout demandeur d'emploi, quand il s'inscrit à ACDIC, il lui est rappelé de prendre contact avec la plateforme téléphonique correspondante pour un rendez-vous à la NPE pour effectivement finaliser son inscription. Et il a pour ce faire 20 jours ouvrés. Donc, s'il ne réagit pas dans les 20 jours ouvrés, il y a automatiquement un courrier d'avertissement avant radiation. Donc, c'est ce qui s'est passé le 6 janvier. Donc, quand il reçoit ce courrier, il a encore 15 jours pour se manifester et expliquer les raisons de son absence. Toujours rien. Donc, à ce moment-là, l'agence locale a pris la décision légitime, en l'occurrence, de la radiation. Donc, qui a été prononcée, en l'occurrence, le 31 janvier, soit 2 mois après son inscription à la CEDEC.
Et ce monsieur est là? Il est là?
Oui, il est là. On peut le faire rentrer, monsieur Guillet, merci.
Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et vous, monsieur, vous représentez qui?
Je suis
un ami.
D'accord.
Vous êtes monsieur pour avoir votre nom?
Cheval, comme un cheval.
Bien, monsieur, vous avez fait l'objet d'une radiation de 2 mois.
Oui.
Pour non-présentation au premier entretien avec la NPE.
Oui.
Pourtant, vous avez reçu une lettre d'avertissement, précisant bien que vous ne vous êtes toujours pas présenté. Enfin, il vous alertait, et attention, si vous ne répondez pas à l'avertissement, automatiquement vous êtes radié. C'est ce qui s'est produit.
Ouais.
Suite à quoi, vous contestez cette décision?
C'est parce que non, quand j'ai contesté la décision, c'est que j'avais pas reçu le courrier qu'on m'avait envoyé. Comme j'ai des problèmes dans l'immeuble, les boîtes à lettres sont broyées, tout ça. Donc j'avais contesté après ce problème-là. Et bon, comme j'ai vu qu'il y a eu le maintien, donc j'ai attendu jusqu'à maintenant pour me réinscrire.
Vous avez un document de la poste qui le précise?
Non, mais par contre, là, actuellement, aujourd'hui, il y a des gens de surveillance vidéo, tout ça, qui sont en train de remettre toutes les portes en ordre avec des interphones, avec une serrure électrique, tout, qui sont actuellement en train de le faire.
Oui, mais ça ne justifie pas que vous avez été vandalisé, oui, que votre boîte aux lettres a été défoncée, que vous n'avez pas reçu le courrier.
Non, mais j'ai lu déjà.
Ça, il faudrait un justificatif aussi. Oui.
Non, mais à ce moment-là, un truc aussi que je ne comprends pas, j'ai été aidé à la NPE aussi, c'est que j'étais en train de faire un stage de recherche à l'emploi, payé par le CNASA. J'étais toujours à la recherche d'un emploi. On est d'accord. Pourquoi j'ai été radié?
Oui, non, mais attendez. Non.
Ah bah oui, non, mais
ça n'a rien à voir.
Oui, mais j'étais quand même à la recherche d'un emploi, parce que
bah, encore heureux. Mais c'est on vous donne des pistes.
Mais oui, mais je vous demande maintenant pourquoi que j'ai été radié, malgré que j'étais toujours à la recherche d'un emploi, je faisais un stage.
Parce que vous ne vous êtes pas présenté à votre première... normalement, vous êtes inscrit, vous devez vous présenter...
J'étais inscrit, j'étais toujours.
Oui, mais il faut confirmer cette inscription en vous présentant dans les 20 jours ouvrés, après que vous avez un délai, auprès de la NPE. Pour cela maintenant, dès que vous sortez de l'inscription à CEDIC, vous téléphonez à la NPE pour prendre rendez-vous. C'est comme ça la procédure.
Non, pour information, monsieur Harrison dit plusieurs fois, il a été radié en 97 pour non-réponse, effectivement. Oui. Et encore en 99, là, pour un refus d'emploi. En 2001, pour non-réponse à convocation. Ça arrive assez souvent. En l'occurrence, là, quand il parle du stage d'adéquation, c'était en 2003, il avait un stage de remobilisation. Il est possible qu'il ait été radié toujours dans les mêmes circonstances qu'il explique là, hein, et que la NPE, le directeur d'agence, ait décidé de le réintégrer parce qu'il était dans une action de formation, donc de retour à l'emploi, qui laissait, en tout cas, prouvait qu'il était dans une démarche active.
Bon, bien, pas d'autres questions. Nous vous remercions, monsieur. Dans une dizaine de jours, vous recevrez une suite à votre demande de recours.
Mmh.
La décision qui aurait été prise par les membres de la commission ici présente.
Oui.
Merci. Merci, monsieur. Au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir, monsieur. Monsieur. Moi, ce que je peux dire dans ce dossier-là, c'est que c'est une personne qui mélange tout. Hein.
Non, c'est un manque de compréhension.
Il est en train de chercher, il est créateur d'emploi.
Il m'a pas.
Non, mais.
C'est ce qu'il dit.
Il dit qu'il veut monter une entreprise.
Je parle d'identifiant. Il connaît même les termes techniques.
Ah bah, identifiant, c'est le numéro que l'on donne aussi bien à l'NPE.
Oui, non, mais enfin, il l'a bien retenu.
Il l'a bien retenu, parce qu'il a bonne habitude.
Non, mais l'ANPE, si elle ne le convoque pas, ou si elle ne lui adresse pas de courrier, ou bien qu'il ne reçoive pas le courrier, il ne bouge pas.
Il ne bouge pas.
Il ne bouge pas.
Oui, à mon avis. Bien.
Moi, une voix. Donc, un mois. Moi aussi.
Maintien. On vote. Maintien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
58.
Et 2,
un mois.
Donc,
on touche à rien, on touche à rien.
Le point numéro depuis le début, j'ai toujours un, et jamais rien. Alors.
Mon mari,
5, oui, 7, oui, 11, oui, 14, oui, 23, oui, 26, oui, 31, oui, 40, oui, 53, oui, 58, oui, 63, oui, 68, oui, 78, oui, 83, oui. Et 90, c'est bon.
Entre ciel, vent et pluie, Madame Dupont vend des objets chinés tôt le matin. Brocanteur, voilà tant d'années qu'elle connaît ce métier et qu'elle ne peut s'en défaire. Pourtant, depuis longtemps, elle est fauchée et ne sait plus à quel saint se vouer.
Famille, et d'ailleurs la famille de la SNCF, c'est une très grande famille, et chez nous, on travaille à la SNCF pratiquement de grand-père en petite-fille, si je puis dire, oui. Et ma mère était bibliothécaire SNCF, j'ai moi-même été bibliothécaire SNCF durant 4 ans.
Assez jeune.
Assez jeune, je sais pas, je me souviens pas. Oui, je devais être assez jeune, oui. Tout étant relatif, je devais être assez jeune.
Vous êtes resté 5-6 ans bibliothécaire.
4 ans.
4 ans. Et puis ensuite, vous avez eu envie de voler.
Et puis ensuite, il m'est venu un amour immodéré pour les objets anciens. C'est une de mes amies qui est morte d'ailleurs depuis et qui m'a un peu mis le nez dans ces choses-là. J'aimais déjà les choses anciennes, mais bon, j'ai fait des déballages avec elle, je suis allée chiner sur des brocantes avec elle et j'ai aimé cet univers. Et à l'époque, j'étais mariée à un fonctionnaire, à un enseignant, donc la vie du ménage ne dépendait pas de ma paye. J'ai donc décidé de quitter la SNCF et la bibliothèque SNCF pour me lancer dans le commerce des objets anciens. Mais comment dirais-je, il faut savoir qu'on peut pas être à la fois bibliothécaire SNCF et commerçant. C'est pas autorisé par la loi. Il a fallu choisir. Voilà. Donc j'ai choisi. Et puis bon, ça a marché quelques années. Et puis bon, après la vie m'a fait rencontrer quelques difficultés. Hein. C'est tout à fait logique. Hein. Les choses ne sont pas toujours aussi simples. Et puis voilà. Voilà, c'est comme ça que je suis venu à vendre des antiquités. Puis je me suis arrêté un jour pour des raisons personnelles. Donc les commerçants n'ont pas d'autres ressources que le RMI. Lorsqu'ils arrêtent leur activité, ils n'ont pas d'autres ressources que le RMI.
Donc vous êtes au RMI depuis pas mal.
Oui, j'étais au RMI depuis quelques années.
Depuis quelques années.
Et j'ai donc décidé après m'être occupé de ma grand-mère pendant une année, qui était à la fin de sa vie.
Elle vous hébergeait, je crois.
Je vivais chez elle, hein, parce qu'elle voulait absolument pas aller à l'hôpital. Elle avait presque 102 ans quand elle est morte. Et puis j'avais une dette, parce que si j'ai fait des études et si je sais m'exprimer, si je suis à peu près bien élevé, c'est grâce à mes grands-parents. J'ai voulu payer ma dette.
Donc vous en êtes occupé pendant combien ?
Une année complète. Et puis après, j'ai voulu reprendre le commerce des antiquités. Parce que j'avais un tout petit peu de sous de côté, je m'en suis servi pour acheter un camion. Parce que ma foi, pour transporter des caisses avec des bibelots et des meubles, on a besoin d'un camion. Alors, c'était pas le dernier camion sorti, hein. C'est un camion qui avait une quinzaine d'années. C'est un camion mais mécaniquement en bon état, extérieurement très vilain, mais mécaniquement en bon état, c'est l'important. Et donc j'ai investi cet argent pour acheter le camion, en me disant, bon, la subvention Freux, qui est de l'ordre de 3000 euros, va arriver. Et puis la subvention n'arrivant pas, et moi je voulais augmenter mon stock.
On parlait tout à l'heure de vos fils.
Mes fils, oui. Ah, j'ai des fils fabuleux.
Et qui,
ils sont exceptionnels, mes fils. Quand je les vois et quand il y a des occasions, ça c'est sûr qu'ils bien conscients qu'ils sont de la situation. Bon, eux ne peuvent pas m'aider financièrement. D'ailleurs, je ne le voudrais pas parce que ils ont acheté chacun une maison. Il y en a un qui a deux enfants, donc ils ont charge d'âme. Et puis de toute façon, la logique c'est les parents qui aident les enfants et pas l'inverse. Mais enfin bon, ils ont des attitudes assez rigolotes dans la mesure où ils m'ont dit, maman, quand on se voit, il y a plus de fleurs, il y a plus de choses comme ça. On donne dans l'utile. Et la dernière fois qu'ils sont venus, ils sont arrivés avec un tube de fond de teint qui m'a foi était dans la bonne couleur et une petite bouteille de vernis à ongles. C'est pour ça que je dis que j'ai deux fils, un de 27 et un de 36, mais franchement j'ai deux fils fabuleux, parce que bon, ils ont bien compris quoi.
Voilà. Mais vous ne pourriez pas accepter qu'ils vous donnent de l'argent par exemple?
À moins, parce qu'il y en a un des deux qui joue de temps en temps au loto, à moins qu'ils deviennent multimilliardaires au loto, là, je pense que je leur donnerai le RIB du compte en banque. Il n'y a pas de souci, j'accepterai. Mais dans la situation actuelle, c'est hors de question, dans la mesure où ils ont besoin de cet argent pour se construire. Ils ont besoin de cet argent, ils travaillent tous les deux, dur. Ils font même parfois des choses à côté pour arriver à boucler les fins de mois, donc il est absolument hors de question de Enfin, l'aide, elle est dans la tête. Je sais qu'ils sont là, quoi. Et puis, bon, c'est voilà. Et bien maintenant, je suis particulièrement fauchée. Donc, j'ai été voir un organisme qui s'appelle le CCAS et qui m'a dirigée vers une, ce que j'appelle, moi, une banque alimentaire. c'est-à-dire qu'il y a des tarifs très très bas, on peut se procurer les produits de première nécessité. Alors on vous remet un chèque, d'après, je n'y suis pas encore allé. D'après ce qu'on me dit...
Le titre du document, c'est « Vous agissez avec le Sésame ».
Alors, c'est Sésame, oui, ça s'appelle Sésame, et ça veut dire « Centre d'économie sociale et d'aide municipale ». Donc, c'est donc grâce à la municipalité que ça existe. Voilà.
Et donc, qu'est-ce qu'on fournit, là ?
On fournit des produits de première nécessité, des pâtes, de l'huile, du savon, du beurre, des œufs, puisqu'on nous demande d'apporter des boîtes à œufs. Donc il doit y avoir des œufs, hein, de la lessive vraisemblablement, des choses comme ça, des produits de première nécessité à un tarif vraiment très bas pour les gens particulièrement démunis dont je suis maintenant.
Et voilà. Vous y allez ?
Je n'y suis pas encore allée. Vendredi qui vient, je dois recevoir ce chéquier et ce même vendredi, je dois aller y faire mes courses pour la première fois. Et je vous avouerai que je suis pas vraiment fière de me rendre dans ce genre d'endroit. C'est certainement dans toute C'est une démarche qui m'est extrêmement pénible et je me sens pas humiliée parce que c'est pas de l'humiliation, mais ça me coûte vraiment de faire cette démarche. C'est certainement la démarche qui me coûte le plus. Je me sens assistée là vraiment jusqu'au fond du fond et ça franchement je trouve pas ça gratifiant du tout.
32. Surtout, attendez qu'on vérifie bien. Hein. Ça ne touche à rien. On vérifie.
C'est vrai. Le travail peut se délivrer dans la tâche. La tâche dans la corvée dans la peine. Et durant les 3-8, ces 24 heures d'affilée de la nuit tombée jusqu'au jour dans son entier, la journée qui tourne sur elle-même semble nous emprisonner. Mais la terre gironde hors des murs ressemble à une morte saison quand, dans les ateliers, les hommes de la nuit, pas peu fiers de leur rôle nocturne, s'affairent afin d'atteindre leur rendement de pièces pour que nous puissions prendre le relais. Les chaînes et certaines machines tournent alors en continu, et les mains de chaque équipe sont des cercles qui fusionnent, parachevant les transformations des matières premières. L'épreuve, ici, est humaine. L'usine vit en nous, et nous vivons en elle, tels ces couples improbables qui se déchirent à certains moments et qui, à d'autres, font bon ménage. Le dur et le duveteux, la soumission et le libre jeu, le corps machine et la volonté faite homme, la mécanique des gestes et l'expression spontanée des émotions, la tôle et la peau.
Les femmes que nous avons rencontrées le disent. Ces hommes qui parlent si peu, repoussés au plus bas de l'échelle, perdant leur territoire, évitant les questions. Leur souffrance est silencieuse.
Non, moi j'ai fait que de la benne. Bon, bah si je continue dans ce métier-là, parce que je vais vous dire, je suis vraiment déçu par le métier. Parce que on demande de plus en plus aux chauffeurs, il y a de plus en plus de contraintes, et on paye de moins en moins. Donc, pour un salaire équivalent, il vaudrait mieux faire le balayeur, quitte à faire le bailleur dans la rue. Je pense que je vais peut-être changer de métier, d'ailleurs, si je trouve pas ce qui me convient.
Et le premier métier que vous exerciez, maintenant, vous pouvez plus l'exercer ?
Je peux plus le exercer parce que j'ai une hanche en céramique. Donc, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est tout ce qui concerne les charges lourdes, position de debout pénible, sans compter ce que récemment je me suis fait agresser, tout s'enchaîne quoi. Tout s'enchaîne, mais sinon moralement ça va.
Qu'est-ce que vous avez fait en intérim comme type?
J'ai obtenu un stage de magasinier Caris, j'avais ma licence de Caris et ma licence de Caris. Bon, j'avais des missions en intérim, qu'on voit là chez Spontex et DBA, j'ai fait de l'intérim pour être cariste, quoi. Mais seulement, c'est des petites missions, des fois. Alors, on fait une mission, des fois, d'une semaine ou deux semaines, et puis après, on est trois mois sans avoir une mission. Ah, il y a ça fait un trou aussi. Voilà.
Et avant cariste, qu'est-ce que vous faisiez?
Ah, j'étais conducteur d'engin. Maintenant, j'ai arrêté parce que j'ai des problèmes de santé. J'ai le dos complètement bousillé, mais enfin, c'est pas grave. Mais c'est ça, j'étais conducteur d'engin, mais j'étais souvent en déplacement. Ce qu'on disait, pelleteuse, bulldozer, tout ce qu'ils ont dessus. Mais bon, vu la santé, j'ai le dos d'une personne de 90 ans, alors. C'est interdit, conduite d'engin. Parce que bon, je travaille, mais seulement je vais travailler une semaine et après je vais être un mois bloqué à la maison. Alors c'est pas intéressant pour l'employeur, puis pas pour moi non plus.
Vous avez quel âge ?
Je vais avoir 59 ans cette année. Alors voilà l'histoire.
Vous travaillez depuis quel âge ?
J'ai commencé à travailler depuis l'âge de 15 ans. Enfin, j'ai commencé à 13 ans et demi, mais un an et demi sans être déclaré. Voilà. Ma première déclaration c'était en 61, donc c'est pour ça que j'ai encore ma première carte d'immatriculation. Je l'ai quoi. Donc ça ferait 44 ans de... Oui, mais comme il y a les trous, c'est ça.
J'ai eu mon CAP de plombier, que je n'ai pas continué. À partir de là, je suis rentré chez la fabrique d'éponge à Novacelle, jusqu'en 72. Et après, j'ai fait du déplacement dans l'isolation. Et je suis arrêté en 91, parce que bon, mon patron il m'a viré. Et j'ai attaqué, puis j'ai gagné. Mais comme il y a le téléphone arabe qui marche, impossible de retrouver du boulot, alors donc j'ai pris 13 ans de vacances, en étant érémiste. Et là, j'ai la bonne aubaine de retrouver du boulot depuis octobre.
Vous gardez donc un chien ?
Oui. Oui, je sors un chien tous les jours. Et c'est très bien, quand je l'ai pris cette annonce, c'est pour me forcer à sortir. Donc à me réoccuper de moi, être obligée à prendre un bus, le sortir pendant une heure, et de revenir... Alors j'ai un créneau qu'ils m'ont donné parce que comme eux ils partent à 8h, ils le sortent. Je dois le sortir entre 11h et 13h. Il est adorable ce chien-là. C'est un braque de Weimar, donc c'est pas un petit chien déjà, je dis en plus un petit chien. Mais il écoute. Au début j'avais très peur. Parce que quand j'ai vu le chien, c'est assez must. Mais non, il est adorable. Quand on lui dit Nips, il revient... Non, j'ai franchement pris de l'amitié pour lui en plus. Des fois, je me marre parce que je lui dis, je parle à un chien comme je parle à mon fils. Et tout ça, c'est bien. Ça nous oblige à nous dire, bon, ça y est, fourture, travail.
Madame, monsieur, je sous-signais Albert Ledru. Que j'ai fait deux courriers à Chamel, à côté de chez moi, et qu'ils ont employé plusieurs personnes depuis début mars. Moi, je cherche toujours un emploi, de femme de ménage ou même travailler dans une maison pour faire à manger et s'occuper d'enfants. Je suis assez dans la mouise, car n'ayant pas de permis de conduire, ne pouvant travailler à des kilomètres. Dernièrement, j'ai été voir le médecin. J'ai 8 de tension. Et il m'a donné un médicament pour ma tension, du fer et un cachet pour le cœur. J'aurais dû vous le signaler dans ma dernière lettre, mais j'étais tellement emmerdé. Je dois aller le revoir à la fin du mois. Et j'espère que ça va. Veuillez agréer, monsieur, mes sincères salutations. Albert.
Nous grimpons de nouveau sur le plateau de Creil. Pour être reçus par monsieur et madame Chebib, venus d'Algérie avec leurs 4 enfants, voilà quelques années, pour rejoindre des frères bien installés dans le commerce. Mais depuis 3 ans, ils sont en panne. Autour d'un thé, il trace quelques désirs et des échecs inattendus, un accident.
Vous habitiez, vous étiez où avant ?
On était en Algérie.
En Algérie, d'accord, voilà. Vous êtes arrivé il y a 2 ans.
En 2002.
2002, voilà. Donc là, comment ça s'est présenté ? Comment les choses se sont présentées en arrivant ? Vous étiez optimiste ? Vous étiez...
Oui, pour ça on était optimiste. Surtout on est venu par rapport à nos enfants, quoi. C'est pour leur étude, c'est-à-dire pour leur avenir, quoi. C'était pour ça, c'était notre but. Voilà. Et là, depuis qu'on est arrivé, on essaie de trouver du boulot. Enfin, apparemment, moi, parce que lui, il a des problèmes de santé, puisqu'il s'est fait opérer plusieurs fois.
Du genou. C'est lié à un accident antérieur.
C'est un ancien accident, ça s'est passé
en Algérie. Ensuite, là, lorsque je suis venu, j'ai le genou qui s'est déboîté. J'ai été voir le médecin au mois d'octobre. Après, il m'a fait la première intervention. C'était en mars 2003. Je suis resté une semaine. Ensuite, il a évité de faire la grosse. D'après lui, il doit me faire une prothèse du genou. Et comme je suis jeune, il voulait éviter. Alors, il m'a fait une intervention, c'est une hystérectomie tibiale. Il m'a fait une plaque et tout ça. C'était en septembre 2003. Et là, en septembre 2004, je suis rentré pour enlever le matériel que j'avais. Et je l'ai vu, il m'a donné un autre rendez-vous pour le mois de mars. Je ne sais pas qu'est-ce qui. On va où? Et comme j'ai pas l'habitude de rester sans boulot, j'ai l'habitude de bouger, j'ai l'habitude de. Je suis pas resté parce que j'ai commencé après les études, après le décès de mon père. Et j'ai commencé à travailler à l'âge de 19 ans. Je me suis marié à l'âge de 21 ans. Ça fait. On s'est marié en 83. On a une fille qui fait sa licence en commerce. On a un garçon, il a 19 ans, il fait son BEP en hôtellerie. Et on a deux petits. Une, elle est au collège et l'autre, elle est en primaire. Mmh. Ils travaillent bien, on est derrière eux tout le temps. Mais c'est que là, heureusement, parce que nous, en Algérie, on s'entraide ici parce que j'ai de la famille. C'est eux qui nous ont aidés à faire tout ça.
Oui, démarrer, quoi.
Démarrer, ils nous achètent la télé, l'autre le salon, l'autre la salle à manger. Vous voyez ce que je veux dire, parce qu'avec l'RMI, on n'arrive pas à...
Mais quand vous êtes arrivé il y a 2 ans et demi, à quoi vous avez pensé comme...
Moi, personnellement, j'avais l'intention de faire du commerce, quelque chose comme ça. Avec la famille, avec ma femme et tout ça. Et comme le problème de genou, surtout j'avais l'intention de faire la boucherie. Et avec le médecin, il m'a interdit de la position debout, les escaliers, quelque chose de lourd. Alors, et ma femme, elle était secrétaire d'administration.
Et donc vous avez cherché dans...
Ah oui, j'ai cherché partout là. J'ai même fait... je cherche sur internet les offres d'emploi avec madame... à la MPE, quoi. Et j'ai fait un SAS, mobilisation.
Récemment, là?
Récemment, ça fait au mois de juillet, quoi, je me suis arrêtée.
Ça dure 4 mois, hein, les stages,
c'est ça? Oui, ça dure 3 à 4 mois. Voilà. Donc, j'ai fait pour me réadapter, pour m'intégrer plus. Voilà, c'est un...
Et c'était bien?
Oui, ça s'est très bien passé. J'ai bien passé mon stage. Ils m'ont même...
Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de...
Dans ce genre de stage, on vous apprend à faire des lettres de motivation, des CV, de faire des petits stages au niveau des entreprises. Chercher, c'est-à-dire on doit chercher nous-mêmes les stages pour aller travailler, faire des stages. On a fait 2 stages dans différents endroits, donc pour apprendre quoi. Comme moi, je voulais faire de l'accueil ou du secrétariat ou agent de bureau quoi. Dans le même. Enfin, j'ai gardé pendant quand on a fini le stage. Je suis sortie avec, normalement, je devrais faire une formation en informatique. Parce que là, c'était mon but. C'est-à-dire d'acquérir l'outil informatique. C'était ça qui me manquait. Pour avoir, faire de l'Excel ou du Word. Voilà, c'est sur ces 2 logiciels surtout. Et c'est ce qu'ils m'ont conseillé, même ceux qui étaient avec moi. Et j'ai été voir. Ils m'ont demandé d'aller voir des organismes pour avoir des conventions avec eux et tout ça. J'ai été voir un Micro Plus, ils m'ont envoyé vers Micro Plus, ils étaient d'accord. Ils m'ont fait un devis d'heures que je devais faire et voir avec l'ARIAF en même temps. J'ai été voir l'ARIAF pour qu'ils me subventionnent mon...
C'est un organisme de... C'est
oui, de recherche de travail.
De recherche de travail.
Voilà. Et là, ils m'ont dit comme quoi qu'ils ne pouvaient pas me subventionner la...
Le stage.
Ce stage, l'apprentissage de cette formation, quoi. Et depuis ce jour, je cours à droite, à gauche, au Greta aussi, c'est une formation. Ils m'ont demandé de faire une préqualification. Et depuis ce jour, je cours à droite et à gauche, j'envoie des offres d'emploi, je cherche sur Internet
Il ne répond pas.
Il ne répond pas.
Vous avez déjà eu des réponses écrites d'employeurs? Vous avez reçu des courriers?
Oui, si, j'ai reçu deux fois. Deux fois, j'ai reçu. Comme quoi, le poste était déjà pourvu. J'ai été faire au Greta un entretien collectif. Il m'a proposé de faire une préqualification du niveau 5. Là, il m'a dit de bien réfléchir pour faire ça. Et dernièrement, j'ai eu un rendez-vous avec Madame Hertz. Et elle m'avait conseillé d'aller voir Solidarité et Développement. J'ai eu le rendez-vous cette semaine. Et avec cette dame, elle a essayé de faire en sorte que j'ai avec elle plusieurs rendez-vous pour le mois de février, pour qu'elle puisse m'aider, quoi, dans mes recherches d'emploi. Voilà.
Donc, quand on n'a pas de rendez-vous avec un employeur, très peu de réponses.
Très peu de réponses, on ne peut pas... Moi, des fois, ce qui me passe dans ma tête, c'est que je me dis, où ils s'arrêtent, quand ils voient le non, ils sont... Voilà, je vous le dis sincèrement. Je vous le dis sincèrement, parce que quand ils voient le non, de suite, ils vous répondent...
Ça s'est passé avec une femme qui faisait la formation avec. La même chose.
Oui,
c'est elle qui leur a montré où ils vont et tout ça.
C'est-à-dire, je leur ai montré l'endroit et tout ça. Et elle a été prise, moi non.
Je ne sais pas, là, on ignore.
On n'essaye pas de dire que
non,
c'est...
Non, il y a du
racisme. Mais de temps en temps, ça vous bloque, ça vous met
les... Mais ça vient dans l'esprit que... Ouais. Parce que lorsqu'on ne trouve pas ou quelque chose comme ça, on dit comme ça.
Je ne sais pas si c'est vraiment de la discrimination positive ou
non.
Mais la formation a démarré.
Qu'est-ce que vous vous dites au fur et à mesure, avec les semaines qui passent, le mois, qu'est-ce que vous...
Eh bien là, j'essaie de ne pas baisser les bras, puisque là, je commence avec la dame du... Solidarité développement, et je crois que le jour où je l'ai vu, ça m'a donné un peu d'espoir, parce que la façon dont elle m'a parlé, c'était vraiment une femme sympathique, et elle m'avait donné de l'espoir, quoi. Et elle m'a dit, on va faire tout ce qui est dans notre possible pour vous aider. Seulement, si vous restez sur votre objectif, parce que c'est vrai, dans le domaine du secrétariat, c'est pas facile parce qu'il faut avoir... Généralement, quand on voit les offres d'emploi, on tombe toujours... il faut avoir un bon niveau en anglais, il faut avoir un niveau BAC ou BTS. Ou... Ça, je suis consciente de ça. Et elle m'avait demandé si vous voulez pas changer d'objectif. Et là, j'ai bien pensé, je crois que je vais changer carrément d'objectif. Ou faire la petite enfance, ou... Faire
pour garder des enfants ici chez nous.
Assistante maternelle, voilà. Enfin, il faut que j'aboutisse à quelque chose, il faut que je travaille, quoi. C'est ça. Parce que là, il ne faut pas qu'on reste toujours dans... Parce que la routine, ça nous... Tout le temps rester comme ça et tout, ça nous démoralise aussi.
Peut-on léguer ses rêves? Lorsque le devoir de solidarité reste le plus fort, c'est souvent à l'adresse des enfants qu'elle est destinée.
Et vos grands-enfants, ils disent quoi, là, les grands
qui... Ils veulent qu'on travaille, ils veulent à tout prix, qu'on... surtout pour m'occuper déjà, et ne pas rester, parce que ça, des fois, ça, il y a une pression qui...
Et comment ça se traduit, cette pression?
C'est-à-dire surtout par rapport aux enfants, pour les aider, pour... C'est ça? Parce que nous, c'est ça.
Pour les aider scolairement.
Scolairement, matériellement, tout. Surtout
on
matériellement
pas,
aussi.
Pas, on est toujours derrière eux.
Voilà.
Surtout pour l'éducation.
Et vous sentez que c'est difficile de plus en plus. Le temps passe et c'est difficile.
Voilà, de plus en plus, ça devient un peu plus difficile.
L'âge qu'on a et voilà. C'est que peut-être, je pense que, parce qu'on n'a pas travaillé ici en France, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas vous prendre. Voilà, parce qu'on n'a pas travaillé ici en France, c'est pour ça qu'ils, lorsqu'ils voient votre CV, c'est un petit peu...
Hein, ça bloque, quoi.
Ça bloque, c'est ça. Et je ne sais pas, qu'est-ce que le destin nous réserve. On vit du jour au jour, et on essaye de faire de notre mieux. Même si on ne mange pas, mais pour les garçons, pour les enfants, on est là.
Vous êtes le soutien moral.
Ah oui,
ah oui, ah oui,
maximum pour les enfants.
Ah non, ça c'est notre priorité, surtout ah oui. pour les études.
Surtout pour les enfants.
Comme ça, ils auront une bonne situation.
Et sinon, pourquoi on a des enfants?
Si nous on souffre, eux par la suite, ils vont avoir.
C'est ça.
C'est ça. Oui. Nous on souffre, mais eux on ne veut pas qu'ils souffrent après. Oui. Parce que c'est les études.
Vous sentez parfois leur souffrance dont vous parlez un peu.
Oui, bien sûr. Ils sont.
Bien sûr.
Ils comprennent tout. Oui.
Comme les jeunes, ils veulent par exemple des choses, je ne sais pas, des voitures, comme tous les jeunes, ils veulent. Je sais pas, être bien habillé, la grande classe et tout ça, mais avec nos moyens,
on essaie de les satisfaire.
Voilà.
Mais c'est pas possible.
Mais
on peut pas.
Heureusement qu'on a des enfants qui, ils sont pas exigeants.
C'est ça.
Oui, mais
ils sont pas exigeants.
En tant que parent, c'est pas facile.
C'est pas facile. Voilà. Exactement. Je peux pas leur dire.
Mais
je préfère.
C'est que les enfants, il faut leur dire la vérité. Il ne faut pas leur mentir.
Le fait accompli, quoi.
Il ne faut pas leur mentir. Il ne faut pas leur dire quoi que ce soit.
Voilà ce qu'il y a dans notre budget.
Et c'est ça l'éducation.
À partir de là.
Ils sont conscients.
Par exemple, si on a des commissions à faire, on fait des courses une fois par mois. Ou on va des fois, quand il arrive c'est-à-dire la fin du mois. Et ce qui reste, c'est pour finir la fin du mois. Et comme on a bien organisé notre, c'est-à-dire pour les charges, pour payer le loyer, l'électricité, tout
ah,
ça,
pour ça,
on a
je
fait
dois payer
de
ça,
façon, il faut qu'on paye ça pour qu'on ne soit pas mis à la rue, quoi.
Et ça, ils comprennent bien.
Ah oui, ils sont conscients, ça. Parce que
ils sont dans le bain. On doit discuter tous ensemble, on parle tous. Même la plus jeune, elle est consciente, elle a 8 ans, mais elle sait que...
Mais ils réclament par exemple un peu d'argent de poche, des choses.
Non.
Non, parce que je vous dis pourquoi, parce que comme la grande, elle a droit à une bourse. Donc, elle, comme le Crous, il lui donne sa. Elle a sa bourse, donc elle.
Elle se débrouille.
Elle se débrouille avec sa bourse. Le garçon, par contre, il a une bourse, mais c'est tous les 3 mois, par trimestre. Mais on lui a ouvert un compte, et il met son argent, il essaye de dépenser.
C'est-à-dire le strict minimum.
Le strict minimum, quoi. Voilà. Il ne va pas jeter son argent par les
fenêtres. S'il a besoin, par exemple.
Il est conscient de ça.
Une fois par mois, là, au cinéma. Une fois par mois.
Pour lui, c'est étudiant.
Voilà. Il garde son argent un petit peu. Il a fait son permis avec son argent. Il a pu avoir son permis.
Avec sa bourse et ses
avec sa bourse.
Ah, il a fait son permis.
Oui,
ouais, avec ses petits boulots d'extra. Voilà. Il a ramassé son argent. Il le mettait dans son compte et petit à petit, il a préparé tout ça. Et c'est lui-même qui a payé son... C'était pas nous du tout, c'est lui.
Il a son compte, sa sœur, elle a son compte. On touche pas leur argent. Mais c'est que il n'y a pas de vacances.
Oui, depuis qu'on est venu, on n'est pas parti en vacances.
On n'est pas sorti.
Non.
On était ici. On reste pas, on peut pas se déplacer, on peut pas faire, parce que il y a les bons de vacances de la CAF, il nous dit voilà, vous partez, vous payez, et lorsque vous rentrez, vous nous ramenez les factures et tout, et s'il me donne 1000 euros, je peux pas, il me donne 1000 euros, je peux pas y aller avec les 1000 euros, il y a le transport et tout ça, avec je vais bouffer, il voudrait mieux que je reste ici, voilà. Donc, on prive les enfants de vacances, mais ça va venir. Mais ça va venir. Surtout pour les petits. Mais ça va venir. Petit à petit.
Mais c'est pour ça qu'on vous dit on souffre, mais.
On
essaye de. Comme moi, j'essaye de trouver du boulot à tout prix, quoi.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Vous êtes assez pessimiste, je crois, non?
Je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas.
Non,
parce que. À force de. Ça fait presque 3 ans. J'ai rien fait. Et j'ai pas l'habitude de rester comme ça. Les bras croisés, j'ai l'habitude de bouger, de voyager. Alors, comme j'ai mal, toujours. Mais je mets dans ma tête que voilà, à cause de mon genou, je suis là. Je me fais des efforts, je m'encourage moi-même. Mais au fond, lorsque je regarde mes enfants, ça fait. Bien sûr, lorsqu'il demande quelque chose, vous avez des enfants, et lorsqu'il vous demande quelque chose, vous ne pouvez pas le racheter ou le ramener. Ça fait mal à l'intérieur.
On a essayé pour ne pas les... Ils ont demandé de faire de la musique. On a été à l'école de musique, on les a inscrits.
D'ailleurs, maintenant, je vais la ramener à
15h30. Déjà à 15h30, elle a un cours.
Je me prive de manger, je me prive de...
On a payé l'école de musique.
Pour au moins de leur donner au moins un certain pourcentage. Mmh. Au moins, je ne sais pas, la musique, je ne sais pas, l'autre adiant.
Le
handball.
On les a inscrits dans des trucs comme ça.
À la bibliothèque municipale, elle vient juste de...
Voilà.
De ramener des livres pour... On essaie de faire de notre mieux, c'est sûr.
Non, voilà. Mais les deux filles, c'est bon, elles ont font du solfège, de la musique. Une, elle fait de la batterie, l'autre du piano. Donc,
on essaie c'est-à-dire elles ont choisi de faire de notre mieux pour les satisfaire, pour camoufler le...
Tout faire. Voilà, on doit tout faire.
Voilà.
Je
cherche
un peu
dans le domaine
commercial.
Ouais. Voilà. Dire dans le commercial, c'est pas...
Si, tout à fait. C'est
si, dans la vente.
Ou autre, même itinérante. Hein,
ah bon?
Avec des entreprises afin de faire du recrutement, d'être une intermédiaire d'entreprise à entreprise.
Vous l'avez déjà fait?
Non, mais je suis souvent en contact avec ce type de structure. Donc, pour moi,
ça vous plairait?
Plus que travailler dans le prêt-à-porter en tant qu'adjointe ou responsable, même vendeuse.
Ouais. Il y a beaucoup d'offres sur le commerce comme ça.
Effectivement, mais les salaires sont vraiment très bas. Ils proposent un poste d'adjointe responsable pour 1250 euros brut. Hein. Donc ça fait en net du 1000 euros. C'est très motivant.
Ouais. Et vous cherchez dans la région ou à Paris plutôt?
Plutôt à Paris.
Paris, oui.
De préférence.
40. 40. On touche à rien, on vérifie d'abord. À la buvette, vous avez des sandwichs, vous avez des gâteaux, vous avez du café, il y a pas mal de choses. N'hésitez pas, il y a Jean-Claude aussi qui a des tickets à 1 euro. Si vous en souhaitez, c'est là. Deux.
C'est Madame Afonso qui est inscrite à l'ANPE depuis le 12 juin 2003. Elle est auxiliaire de vie ou gardienne d'immeuble. Elle a travaillé jusqu'en juin 2003. Hein. Donc inscrite le 12 juin 2003, a été vue en contrôle par ma collègue le 21 décembre 2004. Suite à une saisine de la CEDI, toujours pour doute dans la recherche d'emploi. Lors de l'entretien, Madame Afro a fourni une liste de 4 adresses non datées, en indiquant avoir un contact en cours pour un poste de gardienne d'immeuble sur Paris, mais qui n'était pas justifié. Donc, du fait de l'insuffisance de sa recherche d'emploi, une exclusion temporaire de 2 mois était prise à son encontre. Alors, sur son recours, Madame nous indique qu'elle trouve notre jugement trop sévère, qu'elle ne cesse d'aller à la NPE pour essayer de trouver un travail. Malheureusement, j'ai le permis B, mais faute d'argent, je ne peux actuellement m'acheter une voiture, ce qui me complique à avoir des recherches positives. Par ailleurs, je suis allée voir le médecin du travail à la Sécurité sociale, mais celui-ci ne m'a transmis aucun document. Il m'a dit que je pouvais travailler.
C'est bête.
Malgré mes recherches négatives, je continue à chercher. Je suis d'ailleurs en attente d'une loge à Paris sans réponse à ce jour. Je ne comprends pas pourquoi vous me harcelez sans arrêt. Sachez que je fais beaucoup d'efforts et que j'aimerais beaucoup travailler, rien que pour soulager mon moral. Sachez que ça n'est pas facile, je n'ai pas de niveau d'études élevé, étant donné que je viens du Portugal. Et en plus, je n'ai pas de moyen de locomotion, à moins qu'une voiture ne me tombe du ciel.
Ça saurait, ça.
Sur le recours, elle nous envoie à l'appui de son recours un justificatif comme quoi elle est convoquée par Vecteur pour un objectif emploi individuel, faire
une sorte de formation pour essayer de trouver du travail. Et également deux annonces qu'elle a relevées à la NPE le 17 février. Bonjour madame.
Bonjour.
Bonjour. Vous avez fait l'objet d'une exclusion temporaire de 2 mois pour insuffisance de recherche d'emploi.
Moi, j'arrête pas.
Lorsque vous avez eu le contrôle avec Madame Brer, ce jour-là, justement, elle a bien constaté que vous ne justifiez pas du tout de recherche d'emploi depuis un certain temps.
Pour elle, c'était pas assez. C'était pas assez, mais moi, j'arrête pas. Je peux pas faire autrement. Je continue toujours à chercher du travail. Il y a même des gens qui ne me répondent pas.
Parce que dans le cas des auxiliaires de vie, il y a quand même beaucoup de demandes.
Oui, madame, mais j'ai pas de moyens de... Là, elle m'a tout coupé, j'ai plus rien. Je veux payer mon loyer, je peux payer mon électricité, je peux payer le téléphone, tout ce que j'ai, mon crédit, tout ce que j'ai à payer, je peux pas. Pour manger, il faut que je demande de l'argent. Pour venir ici, c'est pareil. Et comment est-ce que vous voulez que je fasse en voiture? Après mon accident, je peux rien faire, hein. Là, je me donne du mal, je cherche du travail après mon divorce, j'ai eu 4 enfants, je me donne du mal, jamais personne ne m'aide, jamais personne. C'est la première fois que je suis au chômage, il me doit de l'argent, il doit me le donner. C'est pas pour longtemps en plus, pourquoi il me coupe mes vivres? Qu'est-ce que je vais faire?
Mais c'est en plus, vous avez droit à des allocations, d'accord, de chômage, c'est pas une obligation à ce que systématiquement on verse des allocations de chômage. Vous avez des obligations. Vous devez rechercher du travail.
C'est moi, je recherche, madame. Et en plus, j'ai une dame qui m'accompagne à chercher du travail. J'arrive pas. J'ai resté sans voiture, sans rien. Et il faut que je me débrouille comme je peux. J'ai 12 enfants avec moi.
Vous n'en avez qu'un.
De la République.
Oui, mais là, il y a un deuxième qui arrive. Je ne peux pas le mettre dehors.
Oui, non, enfin, bon.
Je ne peux pas le mettre dehors.
Ils sont grands. Apparemment, vous recherchez aussi sur Paris.
Comme ça, si jamais je trouve un logement là-bas ou n'importe, moi je cherche partout. Hein.
Oui, mais si vous. Mais justement, vous ne les avez même pas présentés. On ne sait même pas chez qui vous avez été.
J'ai envoyé des photocopies à la dame qui.
Oui, mais c'est après. Après. Les dates, c'est après le contrôle, quoi. Donc ça n'a pas de valeur. Enfin, ça n'a pas de valeur.
Après le contrôle.
Oui. Nous, ce qu'on vous demandait, c'est.
Mais avant, je le montrais aussi. Elle a dit que c'était pas assez. Elle a dit que c'était pas assez.
Vous avez juste donné des noms.
Ils n'ont pas écrit qu'est-ce que vous voulez que je fasse. En plus, comme je fais un peu de tout, parce qu'avant, je m'occupais de mes enfants. Là, je veux travailler. Hein. C'est pas la peine de me pousser à vous. Hein. Moi, je cherche du travail. Je ne veux pas rester comme ça. Je ne vais pas me suicider parce qu'on ne me donne pas mes droits. Hein. J'ai droit quand même au reste du chômage. Mais ce n'est pas ça. Il faut que je cherche du travail, mais il me faut des sous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Là, j'ai du mal à venir ici. Je vais faire comment pour vivre et puis pour payer les tickets de métro, n'importe quand je vais à Paris. J'ai même montré les photocopies des tickets de métro, de train, tout ça. Elles s'en fichent carrément, la dame. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux pas faire autrement, hein. Et si on ne me donne pas d'argent, je ne peux pas aller chercher du travail. Là, je n'ai plus rien. J'ai demandé de l'argent pour aujourd'hui. Je n'ai plus rien. Il faut que je paye mon loyer. Je paye un loyer de 407 euros tous les mois. J'ai mon électricité à payer. J'ai mon crédit, tout ça. Qu'est-ce que je vais faire?
Bien, d'autres questions? Non. Bien, nous vous remercions, madame.
D'accord.
Vous me donnez pas... un courrier suite
vous
à
savez,
votre cours.
Vous me donnez une voiture, moi je vais tout de suite. Vous savez... Et est-ce que je vais voir mes droits ou non?
Je ne peux pas vous répondre parce que ensuite, il va y avoir un débat et c'est avec les membres de la commission.
Non, parce qu'il faut que je sache. Parce
votre
que...
dossier va être étudié.
Là, j'ai encore, il faut que j'aille à Paris, j'ai un rendez-vous. Je ne peux pas y aller.
Bien.
Vous savez, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas y aller.
Bien, nous vous remercions, madame.
Merci beaucoup à tout le monde. Et bon après-midi.
N'oubliez pas votre travail.
Merci. Au revoir.
Demain sur France 3.
Marie-Thomas, c'est vous Marie-Thomas ?
Pour la première fois à la télévision.
J'en ai rien à foutre d'être humiliée. Tu crois pas que j'ai pas été humiliée jusqu'ici ? Avec une vie de merde, traitée comme de la merde.
Faut que tu te le sortes de la tête ce mec. Hein. Toi aussi, un jour, tu vas t'apercevoir que t'as besoin des autres et là, on va voir la gueule que tu feras.
Ouais, c'est ça, je t'enverrai ma photo.
Robert est un ancien ouvrier métallurgiste, magasiné dans une entreprise automobile. Après son licenciement dans le Lot de 1987, il n'a presque jamais retravaillé, au point où le récit du travail a disparu. Totalement enseveli, le récit est impossible. 20 ans après, il ne reste plus que le soi, un soi souffrant et transformé, rabattu sur l'espace domestique et le corps très abîmé. Le récit du handicap se substitue à celui du travail perdu. Serait-ce un équivalent ? Nous terminons cette traversée par ces mots noircis de la mémoire, des mots en tôle froissée, porte battante sur l'usure prématurée, l'inaptitude du corps.
Alors, j'ai travaillé presque 15 ans chez le Kid. J'ai pas voulu accepter leurs conditions de déclassement.
C'était quoi?
Pas de déclassement, mais qu'ils me proposaient de l'argent pour partir.
Vous étiez dans quel métier, sur quel...
J'étais au magasin. Magasin d'outillage. Et puis, d'après la somme qu'ils me proposaient, je suis resté. Ils m'ont mis sur machine, sur les plus machines les plus dégueulasses qu'on peut dégoûter, quoi. Mais je n'avais rien à foutre. J'ai toujours fait mon boulot correctement. Et puis ils m'ont viré comme ça. Mais enfin, j'ai tenu le coup 3 ans. C'est-à-dire que les 3 ans, j'ai récupéré quand même l'argent de qui me proposait, quoi. Et puis après, moi, j'étais aux assédiques et puis au chômage pendant plusieurs années parce que tout m'était interdit. J'avais la route barrée tout partout. C'est-à-dire que l'Oise, la Seine-Maritime, la Somme, il aurait fallu que je parte dans le sud pour peut-être trouver du travail ou autre part, quoi. M'éloigner de l'Oise, du Val d'Oise, de la Somme et de la Seine-Maritime, quoi. Et puis après, bon, bah, je suis retourné au Rémy. Et puis, j'ai quitté ma pomme. Et puis, j'ai trouvé une autre pomme, puis on va dire que c'était une grosse peignante, et puis j'ai fait des conneries. Et puis quand j'étais à l'hôpital à Beauvais, je me rappelle même pas quand j'ai été, ce qu'ils m'ont fait, j'ai été nettoyé, je me rappelle plus. Je me rappelle que quand je me suis réveillé à Amiens, parce que j'étais en coma presque 8 mois, je me rappelle juste que quand je me suis réveillé à Amiens.
Et c'est quoi l'événement qui s'est...
J'ai pris des tranxènes, et puis là, ils m'ont donné des anticorps, quoi, pour croyant que ça me faisait effet, mais ça m'a fait effet contraire. Et puis à la place de, mettons, de me mettre une m'attacher ou un truc comme ça, ou ça, ils m'ont essayé, puis ils m'ont foutu au 4e étage, en neurologie. Et puis les fenêtres s'ouvraient en grand, puis moi j'ai ouvert la fenêtre, puis hop, comme ça j'ai passé par-dessus la fenêtre, puis je me suis retrouvé au 2e étage, je suis tapé en béton. Et je suis devenu paraplégique.
Vous vous souvenez ?
Ouais, c'était au mois de décembre. C'était avant les fêtes de Noël, je crois.
Et vous y pensez souvent ?
Non, j'y pense plus maintenant. Même ma paraplégie, je l'ai bien pris, heureusement. Mais quand j'étais à Mien, j'étais accroché. Quand je me suis réveillé, j'étais accroché. J'ai resté accroché pendant 3 mois. Alors que je pouvais pas bouger, je pouvais pas me sauver. Puis là-bas, il y a les fenêtres, ils s'ouvrent que de 5 cm. Hein. C'est pas comme à Beauvais, c'est voile au vent, hein, les fenêtres. Hein. Alors depuis ce temps-là, sûrement qu'ils ont changé, quoi. Parce que j'étais au 4e étage en neurologie là-bas. Ils m'ont foutu là-haut.
Bien prendre, ça veut dire...
C'est-à-dire que moi, j'y pensais pas au départ, quand j'étais dans mon lit. Et puis je sentais même pas que mes jambes ne bougeaient pas, tu vois. Je pensais qu'ils bougeaient, puis ils ne bougeaient pas. C'est comme là, j'ai le fantôme de la peur. J'ai mon moignon. Et puis je sens ma jambe sur le calepied, alors que j'ai plus de calepied, rien. On appelle ça le fantôme de la peur. Je l'ai de temps en temps, ça, c'est normal, ça. Bon, bah, ça va se passer, ça tombe dans une demi-heure, je l'ai plus, quoi. Enfin, c'est gênant parce que quand on a mal à une jambe, on a mal aux deux. Le problème, il est là, quoi. Ça, c'est des petites souffrances en plus qu'on n'est pas souvent enduré, quoi. Puis j'ai mes jambes, ils sont toujours en feu. Je supporte pas de rats, c'est pour ça qu'ils mettent des arceaux quand je suis dans le lit. Non, ben, y a aucune distraction. C'est la télé, la télé, la télé. Avant, j'ai pris Canal Plus parce que, comme j'aime le sport, bon, ben, pour le football, quoi. C'est cool parce que samedi, il y a le top 16 en rugby, après, il y a du foot. Dimanche, il y a match de foot, tout ça. Il y a foot plus, bon, ben, ça passe le temps, mais ça, c'est dans le lit parce que dans le lit, à 6h30, mon infirmier vient me coucher. Puis le matin, ben, il me lève à 10h. Alors le matin, c'est vite passé parce que tant que je vis mes sondes urinaires, parce que je me sonde avec à la main, quoi, avec les grandes sondes vertes, là. Et puis le pipi, il se raccroche au bout de la sonde et il tombe dans la poche qu'il y a là. Mmh. En tant que je vis ça, que je prépare mes sondes pour la nuit, et s'il manque des compresses, tout ça, des cochers, parce que aussi j'ai une colostopie, je prépare le ventre, j'ai la totale, quoi. Après, il faut que je prépare mes médicaments. Alors, midi, je finis, midi moins 10, quoi.
Et vous sortez de temps en temps?
Non, ben, ça quand fait, tu... de là, ça fait... Si, je suis sorti chez des copains qui m'ont emmené manger chez eux. Sinon, je ne sors pas. Ça fait 18 mois que je ne suis pas sorti.
Qu'est-ce que Chômez-vous dire ? Une émission produite par Jean-François Lahaye, réalisée par Marie-Ange Garandeau. Je remercie messieurs Jean-Marc Vermorel, Pascal Jacobé, madame Escaffre de l'ANPE de l'Oise, le personnel de l'agence Picasso de Creil, Gabi Huette et Bernard Calins du syndicat CFDT, madame Casi de la direction du travail de Beauvais, l'association cycliste d'Estrée-Saint-Denis. Je remercie enfin Franck Magloire pour les extraits de Ouvrière, récit, aux éditions de l'Aube. Texte lu par Simon Duprez. Prise de son, Étienne Leroy, Marcel Lebras, Laurent Macchetti, Jean-Marc Porcher, Pierre Monteil. Mixage, Jehan Richard Dufour.